de la
SF.
Ouais, les lions de la SF. Les lions de la SF.
Les lions de la SF.
On reconnaît les niveaux inférieurs. Ils ont les lèvres bleues. Couleur de bleuet, aurait dit son père. Cyanose, aurait répondu sa mère. Ce mois-ci, tout va bien. Absal a travaillé assez pour acquérir une bouteille pleine, et dans la queue qui s'allonge de coursive en coursive jusqu'au poste de ravitaillement, il serre contre lui le précieux récipient. Il ne s'agirait pas qu'on le lui vole. Dans la cabine à côté de la leur, la voisine a été attaquée la semaine dernière. On lui a pris tout son crédit et surtout la bonbonne. Elle et son mari ont pu en racheter une en mettant en gage un bijou très précieux, un héritage d'en haut. Mais cela n'a pas suffi pour obtenir une part mensuelle suffisante et sauver leur petit dernier. Le gosse a été emporté par une crise d'asthme à la toute fin du cycle. Cela a duré 3 jours. À 24 heures près, il aurait pu atteindre le cycle suivant, être sauvé. Absal entend encore les sifflements rauques, désespérés du gamin, la toux si sèche que les poumons semblaient charriés du sable. Un vrai drame. À quelque chose, malheur est bon. Maintenant que les voisins sont débarrassés de leurs boulets, ils respirent mieux, ce n'est rien de le dire. Malgré ses yeux rouges et gonflés de larmes, la mère est plus détendue, plus sereine, comme soulagée d'un grand poids. C'est sûrement terrible d'en être arrivé là, mais il était temps. Cette famille était en train de mourir avec son enfant. Déjà, Absal n'est même pas sûr qu'on aurait dû leur permettre de le garder, le loupio, quand on a diagnostiqué la maladie. Il serre encore plus fort sa bouteille, dont le plastique souple et incroyablement solide colle à sa poitrine. Il est responsable, lui. Il a pensé à l'avenir de son enfant à naître. Dans sa poche, les graines minuscules ne bougent pas. Elles attendent, sèches et ridées comme des vieillards, mais avec toute la jeunesse du monde au cœur des circonvolutions torturées de leur cause fragile. Elles lui ont coûté cher, 1 litre. Tammy, sa femme, va hurler aussi fort qu'on peut le faire en début de cycle. Les gens sont toujours un peu plus réactifs à ce moment-là. Ils peuvent s'énerver sans s'étouffer à mourir. Ils peuvent aussi faire l'amour. Absal rougit un peu avec une ombre de déception. Cette fois, il sent que Tammy ne sera pas réceptive du tout. Elle a horreur qu'Absal se fasse avoir par l'approvisionnement. Il ne lui a jamais dit ce qu'il acquérait en retour. Il soupire. Elle devient laide, avec son ventre qui s'arrondit comme un petit ballon d'oxygène dur et tiède. Privilège insupportable, Jeanne A. Debat. Bonjour, bonjour. En mai 2008, sortait « La vieille anglaise et le continent » aux éditions Griffes d'encre. Ce texte, écrit par une quasi-inconnue, fera un carton dans le milieu de l'imaginaire et remportera le Grand Prix de l'imaginaire, le Julia Verlanger, le Prix du lundi et le Ronnie aîné. Que ça! Il faut dire que ce texte allie à un fond scientifique solide, une forme faisant la part belle au Sense of Wonder et un sujet incitant à la réflexion sans jamais être moralisateur, une plume poétique ciselée et solide en même temps. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, seulement son début. Toujours chez Griffes d'encre, le recueil Stratégie du réenchantement confirme le talent de l'auteur, cette fois-ci dans la forme courte. En effet, avec ses 70 pages, la vieille anglaise est ce qu'on appelle une novella. Puis, l'an dernier, chez La Talente, le roman Plaguers confirmait le talent de l'auteur dans la forme longue. Nouvelle, roman, Jeanne Debat sait tout faire. Autant le dire, il était hors de question que les lions passent à côté de cet auteur. Alors, je vous offre une petite interview faite toujours aux Imaginales d'Épinal 2011, parce que j'ai fait plein d'interviews aux Imaginales. Et la première question était, on t'a vraiment découvert avec La vieille anglaise et le continent, mais était-ce ta première publication ?
J'avais eu 2 nouvelles avant. Une nouvelle dans un concours organisé par Philippe Ward sur le thème des cathares, et une deuxième nouvelle l'année suivante chez Griffes d'encre, dans l'anthologie, la première anthologie des éléments, La Terre, et c'était Fata Organa. La vieille anglaise et le continent est sortie juste après. Cela dit, ça faisait 2 ans qu'il était sélectionné de par la maison d'édition. C'est simplement les hasards du calendrier qui ont fait ça, quoi. Voilà.
Ensuite, tu as dirigé une anthologie, tu as sorti un recueil.
Non, ensuite j'ai sorti un roman jeunesse et j'ai dirigé une anthologie pendant que je sortais le roman jeunesse. Ce qui fait que les deux sont sortis à peu près en même temps. J'ai dirigé donc une anthologie érotique pour Griffes d'encre, en faisant appel aux plumes que je connaissais, que j'aimais bien, et à quelques inconnus que je connaissais, que j'aimais bien, avec qui je savais que je pourrais travailler là-dessus, sur le sujet, voilà.
Donc tu as publié aussi bien une novella que des nouvelles, qu'un roman. Quel format t'est le plus évident à écrire ?
Alors, tu m'aurais posé la question il y a 1 an, je t'aurais dit les deux également. Maintenant, la nouvelle est un art extrêmement précis qui ne te permet aucune faiblesse. Chaque mot compte. Je commence à être plus à l'aise dans le roman, en fait. Et puis, mes histoires deviennent de plus en plus épaisses, on va dire. Et je construis des mondes de plus en plus complexes, donc effectivement, je suis plus à l'aise maintenant dans le roman, quelque part. Voilà, ma dernière nouvelle m'a été un arrachement, j'ai eu beaucoup de mal à la sortir. Il y avait trop à mettre dedans, tu vois. Mais je ferai certainement un roman avec.
Oui.
Voilà, et c'est la nouvelle qui est dans l'anthologie Bourreau et victime des Imaginales. Je pense que mon premier et peut-être mon seul roman de fantasy sortira de là.
Voilà. Ah, c'est intéressant ça, justement c'est une question que je voulais te poser.
Il faut savoir que mon premier vrai roman, c'était un roman de fantaisie. Simplement, comme je suis terriblement rationnelle, terriblement cartésienne, c'était un faux roman de fantaisie, dans le sens où c'était de la SF déguisée, un peu comme Star Wars, et de la fantaisie déguisée. Et il n'a pas été édité, encore que le directeur de publication à l'époque le trouvait publiable. C'est juste que lui, il ne s'y reconnaissait pas. Il m'a conseillé la science-fiction. Il m'a dit, tu y seras tellement plus à l'aise, là. C'est ce que j'ai fait, et effectivement, j'ai été bien, puisque c'était mes premières amours, en fait, la science-fiction. Simplement, je ne me sentais pas de taille à faire ce que j'imaginais que devait être la SS. Apparemment, si, puisque La vieille anglaise du continent est un pur roman de SF et d'anticipation, et qu'on a jugé qu'il était valide. Oui, je le considère comme un roman, hein, parce que je sors de... Quand même, je suis une littéraire complète, donc, et j'entends par là que je lis aussi bien de la blanche que de la littérature de genre. Et dans le mainstream, le format vieille anglaise, c'est un roman court, mais c'est un roman. Je pense en particulier à un tout petit roman de Gide qui s'appelle Le Pigeon, qui a à peu près cette taille, et qui est un roman. Et il y a certains romans de Duras qui ne sont pas plus grands en taille. En taille. Je ne prétends pas égaler Duras, et alors pas du tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question en fait? Oui, non?
Oui.
Oui. Donc la fantaisie, j'aimerais bien quand même, parce que j'aimerais bien apporter ma boule de feu au jardin de Sauron. Voilà.
D'accord. Tu es venue à l'écriture très tôt?
Au cours préparatoire en fait.
Ouais. Quand tu as appris à écrire.
Appris à écrire. La première chose que j'ai faite, et je m'en souviens assez bien, c'est un poème. Et j'en ai écrit beaucoup, après. Très longtemps, j'ai écrit de la poésie et des lettres. Et pour moi, c'était une activité de l'écriture aussi essentielle que celle des romans. Il m'a fallu du temps pour envisager la publication. Ce qui fait qu'en fait, j'arrive jeune écrivain à l'âge où ceux de ma génération ont déjà publié des dizaines de romans. Mais le déclenchement roman s'est fait très tard, en fait, il y a 10 ans.
Tu écris toujours de la poésie?
Ah non, et puis il faut pas pour l'humanité, il faut que j'arrête.
C'était une erreur de jeunesse.
Voilà, c'est quelque chose que j'espère que dont il ne reste rien.
D'accord.
Moi, j'étais tout brûlé, et quant aux personnes à qui j'ai adressé mes poèmes, j'espère qu'ils en ont fait de même, ou qu'ils s'en sont servis pour caler des tables.
Voilà. Bon, on verra ça, peut-être que ça s'en ressortira un jour.
J'espère que non, ou alors je serai morte et j'aurai plus à rougir de rien.
Il me semble savoir que tu es prof de français.
Il te semble bien.
Il me semble bien.
Il te semble bien, je suis également prof de latin et de grec.
Ta culture générale a influé sur ton écriture ?
Oh, évidemment. Enfin, quand on est latiniste et helléniste, on voit les racines mythologiques de Plagueurs, évidemment. Le mythe de l'âge d'or est extrêmement présent dedans. Voilà, le personnage des Huns, ce sont les hommes de l'âge d'or dans la mythologie latine, par exemple. Cela dit, il y a une logique, philosophique et mathématique qui pousse le latiniste, avec toute la logique formelle de cette langue, à être intéressé par les sciences, à être émerveillé par les sciences. Quelqu'un qui, comme moi, a été baigné dans le corpus latin ne peut pas ne pas sentir le sense of wonder de la science-fiction. C'est oui. Pas possible. Le latin, c'est la langue que devraient parler les ordinateurs. Je lis de la science-fiction depuis quasiment toujours. Enfin, j'ai commencé par le mythologie générale de ma mère, mais après, je suis tombée dans la malle de mon grand-père qui contenait tous les grands classiques de l'âge d'or américain. J'ai une culture SF assez étendue, plus axée jusqu'aux années 80. Hein. Après, j'ai un peu perdu pied parce que il y a eu une déferlante de publications qui faisait que je pouvais plus suivre, et puis une partie de la SF ne me ressemblait pas. Donc je suis une très grande fan de SF, c'est d'ailleurs pour ça que mes camarades du prix Julien Berlanger m'ont recruté en tant que juré. Dès que je suis rentrée dans le roman, j'ai écrit de la SF.
Ouais.
De l'imaginaire. Mmh. Et mon premier roman avait entre autres défaut celui d'être très référencé Anne McCaffrey. D'accord. Donc si on le lisait dans l'intertexte, il y avait beaucoup de points communs. Ce qui fait que c'est d'autant moins dommage qu'il n'ait pas été publié. Mais c'est très bien, j'ai pu, pendant ce million de signes, me débarrasser un peu, pas toutes, parce qu'il ne faut pas se débarrasser de tout, de mes références SF pures et de certains tics inconsciemment acquis chez les autres.
Tu parlais de ton rôle de juré au prix Julien Berlanger. Est-ce que justement ça ne te maintient pas en contact avec la SF actuelle ?
Eh bien, oui, évidemment, mais il me manque en fait 10-15 ans entre. Mais pas toujours, hein, parce que par exemple, j'ai toujours suivi la carrière de Yerdal, de Bordage, mais ils sont de la génération d'avant, hein, que j'avais connue. En même temps, effectivement, j'adore lire ces nouveaux textes. Et du coup, je découvre des gens que je n'aurais jamais découvert. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement positif comme expérience. Mais là, c'est en tant que lectrice. Et je fais vraiment énormément la différence entre la lectrice et l'auteur. Les fois où je ne le fais pas, c'est lorsque je suis anthologiste. Et que donc, je dois poser un regard technique sur les textes. Regard technique que j'essaie de repousser lorsque je suis en lecture. Parce que ça gâche tout, de voir les ficelles derrière le décor.
Oui, je suis d'accord.
Et donc, on n'a plus tellement envie de lire, puisqu'on est en train de travailler.
Nous voici arrivés au moment où je vous convainc de lire, si vous ne l'avez pas encore fait, les œuvres de Jeanne Debat. Alors, commençons par La vieille anglaise. La vieille anglaise raconte l'histoire d'une biologiste, Anne Kelvin, qui a consacré sa vie à la défense des cétacés. Elle est en fin de vie, elle est rongée par le cancer, et une ultime action militante lui est offerte en transférant sa personnalité dans le corps d'un cachalot. Je ne vous en dis pas plus. Je passe directement à Plagueurs. Dans Plagueurs, la terre est moribonde. L'air est à peine respirable, les animaux se sont éteints. Et dans ce monde, certains adolescents développent une étrange maladie nommée la plaie. Avec cette maladie, ils peuvent se faire surgir des créatures à partir de rien. Ils peuvent commander aux éléments. Et le monde les rejette. Ces adolescents sont incarcérés dans des réserves. Ce roman est clairement un roman initiatique avec trois parties. une de jeunesse, une d'apprentissage et une de maîtrise. Une maîtrise qui se termine en apothéose. Et cette fin, en plus de sauver le monde, célèbre l'union avec un grand U. Il n'y a pour s'en convaincre qu'à lire la quatrième de couverture, qui est « J'aurais pu faire bien des choix, j'aurais pu faire de nous nos propres divinités, j'aurais peut-être même pu guider l'humanité dans les étoiles, mais j'ai préféré aider l'autre à naître. Nous nageons ensemble dans l'infinité des possibles, je chante avec lui la chanson d'un milliard de mondes entre les mondes, tous grouillants de vie. » Enfin, last but not least, le recueil Stratégie du réenchantement, pour lequel j'aurais bien du mal à vous raconter, bien évidemment, comme tout recueil de nouvelles, dont je vous ai lu un extrait de ma nouvelle préférée. C'est celle qui m'a le plus marquée. Mais toutes ces nouvelles se caractérisent par une sorte de désabusement, de désenchantement. Et je vais emprunter les mots d'Anouchka dans sa critique. Une Anouchka qui est une lionne honoraire, vous la connaissez forcément. Voilà ce qu'elle écrivait sur son blog. Merci pour cet appel à l'humain, merci pour cette libre expression laissée à tous les non-conformes, à tous ceux qui par leur essence et leur nature sont incompatibles avec la norme, et surtout, propos éminemment politiques et actuels, à tous ceux qui rejettent ce qu'on veut nous faire passer pour une vie heureuse et normale. Merci pour cette plume qui sait, en quelques mots, entraîner le lecteur au cœur d'univers et de vie tantôt fantastique et science-fictionnel. Merci pour cet élan de révolte, face à l'insoutenable et au carcan quel qu'il soit. Je n'ai rien à ajouter à cela, à part... Lisez les œuvres de Jeanne Debat, vous m'en remercierez. Aujourd'hui est un épisode particulier. Nous vous offrons non pas une, mais deux invités extraordinaires, deux grandes dames de l'imaginaire francophone. Notre deuxième invité est Sarah Doak. Et c'est parti! Elles sont neuf. Glitten, Glitona, Glitton, Tironoé, Titen, Titone, Modron, Morgane, Moronoé, tels sont les noms qu'elles se sont choisis. Ceux des neuf reines d'Avalon, les neuf fées de l'île d'Abondance et de l'autre monde. Mais ce ne sont pas leurs vrais noms. Elles les ont choisis à défaut d'elles-mêmes pour se créer une identité commune qu'elles ne parviennent pas à trouver. Elles sont neuf. Trois jeunes filles, trois femmes, trois anciennes. Trois fois trois âges de la femme, trois fois trois féminités. Elles ont été dix, elles ont cru atteindre la perfection en sortant de la symétrie, mais ce n'est plus possible. L'une d'elles a choisi un autre chemin, l'une d'elles a succombé à l'illusion, comme tant d'autres avant elles, à la facilité. Elles ne succomberont pas à leur tour, elles iront jusqu'au bout de leur quête, elles apporteront leur solution à tous les maux. Chacune de son côté a cherché les autres, convaincue à la fois de son unicité et de la nécessité du nombre. Chacune s'est crue la seule détentrice de la vérité, de la réponse. À force de recherche, pourtant, elles se sont trouvées, presque par hasard, au détour d'une conversation. Elles ont mis longtemps à s'apprivoiser. Encore aujourd'hui, elles ne se font pas totalement confiance. Elles sont neuf et veulent la même chose, même si elles sont toujours persuadées de détenir seules la vérité. Il y a Glitten, Glitona et Glitton. Les trois jeunes filles, les trois chasseresses. Tironoé, Titen et Titone, les trois mères. Et puis Maudron, Morgane et Moronoé, les trois gardiennes de la vie. Elles sont semblables. Trois générations, une seule femme, la recherche d'une unique solution commune et salvatrice. Comme tant de femmes et tant d'hommes de cette première moitié du XXIe siècle, elles ont été nourries d'un mélange de science et de mystère, d'une succession d'informations contradictoires et paradoxales qui les ont poussées à chercher ailleurs leur vérité absolue. La religion n'a plus de réponse depuis longtemps, la science change d'avis comme de chemise depuis plus de 50 ans. Toutes les soi-disant révolutions politiques, sociales et économiques qui ont secoué leur vie n'ont été que des échecs et de nouveaux mensonges. 333. Ou alors 333.
Sarah Doak, qu'on connaît, si je ne me trompe pas, par une nouvelle dans Cosmic Erotica et une autre dans Le Dernier Fiction. Y en a-t-il eu d'autres ?
Il y en a eu une autre dans le Fiction numéro 10. Il y en a une dans le Monde selon Ève aux éditions Voyelles, qui est une anthologie dont les bénéfices vont à l'éducation des petites filles en Inde. Et il va y en avoir plein d'autres. Il y en a qui existent. Il y en a une qui existe en allemand et en russe. Il y en a une, celle de Cosmic Erotica a été traduite en italien, et il y en a encore une qui existe uniquement en néerlandais en Flandre, en Belgique.
Alors, je crois savoir que tu fais également de la traduction, puisque hélas, écrire ne nourrit pas sa femme.
Exactement, oui, je traduis essentiellement pour les éditions Bragelonne un certain nombre d'ouvrages, et cet été, je m'occupe de la traduction du roman de Bacigalupi, Paolo Bacigalupi, qui a écrit l'un des romans les plus primés de l'année 2010, The Wind Up Girl, qui paraîtra sous le nom de La Fille Automate. Je fais aussi un certain nombre d'interviews et d'articles, que ce soit pour Les Moutons Électriques, plutôt pour le SF Mag ou pour Phoenix. Il m'arrive régulièrement d'écrire des articles, de longues interviews et parfois des chroniques. Je m'apprête à faire une interview de Françoise Keuten pour un beau livre sur le rétrofuturisme pour les moutons électriques aussi.
Quelles sont tes références en SF ? Avec quel auteur as-tu grandi ?
Je crois que l'auteur qui m'a vraiment accompagnée dans l'enfance et dans l'adolescence est Robert Heinlein. Entre 8 et 18 ans, j'ai lu toute son œuvre. Il a fait partie de mon éducation au même titre que mes parents, ou presque. Mais il y en a beaucoup d'autres. Des femmes, des hommes, Norman Spinrad, entre autres, qui est un auteur que j'adore, Roland C. Wagner, Jean-Marc Ligny, Ayordal, bien sûr, parce qu'avant qu'on se mette ensemble, je le connaissais quand même depuis 12 ans et je l'avais interviewé, j'avais écrit un certain nombre d'articles sur son travail, aussi bien pour SF Mag que pour Phoenix. Donc ça fait partie des auteurs qui me touchent le plus.
Tu as publié des nouvelles. La nouvelle est ton format préféré ou est-ce que tu envisages quelque chose de plus long ?
J'envisage quelque chose de plus long, mais j'ai un petit problème. C'est que j'ai une formation de journaliste, donc j'ai une formation à la concision. Certaines personnes m'ont déjà reproché que quand j'écris une nouvelle, j'utilise le matériau que quelqu'un d'autre utiliserait pour écrire un roman. Donc pour un roman, j'ai besoin d'énormément d'informations, d'énormément de recherches avant de m'y lancer parce que j'aime la foison. J'ai un projet de roman jeunesse pour l'instant, j'ai plusieurs projets de roman adulte et je vais peut-être diriger une anthologie dans les mois qui viennent.
Ah, c'est bien ça, c'est un joli projet. C'est un travail que tu as déjà fait, travail d'anthologiste ?
Pas directement, mais j'ai participé à des comités de rédaction, à des comités de lecture, etc. Donc j'ai un peu l'habitude de ce genre de trucs. Certains auteurs, à la fin des années 90, au début des années 2000, m'envoyaient leurs textes pour que je leur dise ce que j'en pense, pour faire des corrections, etc. Donc j'ai quand même un certain bagage par rapport à ça. Je suis vraiment une touche à tout de l'imaginaire, puisque j'ai aussi organisé 4 festivals à Bruxelles, participé à l'organisation de 2 conventions nationales de science-fiction française. J'ai organisé des expositions et des choses comme ça, donc j'aime bien participer à tous les maillons de la chaîne.
Je voudrais en revenir une nouvelle. Est-ce que tu as des thèmes que tu aimes explorer plus que d'autres ?
Il y a des thèmes que j'aime énormément exploiter, c'est tous les thèmes politiques et travailler sur l'avenir et la manière dont le monde pourrait être meilleur. Et pour l'instant, je me suis créé un monde féerico science-fictif avec des faits scientifiques qui me permet de jouer à la fois sur la science-fiction avec des éléments féeriques et merveilleux et des éléments d'anticipation.
C'est intéressant. Ces textes-là, on va pouvoir les lire
au fur et à mesure, ils arrivent. J'ai créé 91 ou 92 races de fées différentes pour ce monde. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à partir de ça.
Je sais pas vous, mais j'ai très envie de les lire, moi, ces textes. Allez, Sarah, cesse de traduire et écris-nous des nouvelles et des romans. D'autant que j'ai eu la chance de lire quelques-unes des nouvelles de Sarah et qu'effectivement, je les trouve denses, mais également pourvues d'une grande intériorité et d'une grande sensibilité. En plus de tout cela, Sarah est présidente du jury du prix Julia Verlanger. Et là, je voudrais pousser un cri. Miaou ! Il est complètement injuste, inique, que Sarah Doak ne soit pas plus connue. Je l'ai dit, cela doit changer. Bien voilà, c'est bientôt fini. Je me suis calmée, j'ai bu un grand verre d'eau. Je réfrène mon envie de hurler « Vive les femmes !» pour vous parler d'un homme, Peter F. Hamilton. Plus exactement, je voudrais vous parler de la trilogie du vide publiée chez Bragelonne. Peter Hamilton adore les séries qui durent très longtemps. Pour notre plus grand bonheur, attention, j'adore lire Peter Hamilton pendant très longtemps. Et la trilogie du vide fait suite, en fait, à l'Étoile de Pandore, qui comptait déjà 4 tomes. Alice a lu la trilogie du vide pour nous, parce qu'elle avait lu l'Étoile de Pandore et je ne l'avais pas encore fait. Retour dans le Commonwealth, quelques 1500 ans après la guerre contre l'Arpenteur des Étoiles. La galaxie est à nouveau menacée, cette fois par le vide. Hamilton nous emmène, comme à son habitude, dans une épopée intergalactique riche de personnages forts, de rebondissements et de batailles. Il s'essaie même à la fantaisie, fabuleusement bien intégrée à l'histoire. Un voyage qui appelle bien sûr une suite, la fin reste ouverte. Si vous aimez l'excellent space opéra, lisez Peter Hamilton, franchement vous allez être comblés. Et puis, le week-end dernier, j'ai eu la chance de lire la suite des Fédélines. Vous vous souvenez, les Fédélines, l'histoire de Nadia Coste. Le premier tome s'intitulait Les Rives du Monde. À sa sortie en mars, je crois, j'avais fait un épisode spécial. Le second tome, c'est Au bord du mal. Nadia Coste nous narre la fuite de Cahill, le Fédéline, et de son ami Glark, le Gordorive. Le roman est complètement haletant. Autant j'avais savouré le premier opus, autant Au bord du mal se lit d'une seule traite. Je ne me suis pas arrêtée. De toute façon, je ne pouvais pas m'arrêter. Et même si la fin est à nouveau un cliffhanger, c'est pas grave. On regrette pas d'avoir passé quelques heures à lire ce roman, dont on attend la suite avec impatience. Encore un épisode avec que du bon, mais que voulez-vous ? Les lionnes ne parlent que de ce qu'elles aiment. Il me reste à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous à un prochain épisode des Lionnes de la SF.
Vive les femmes et surtout, vive les lionnes.